Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?». Nous avions choisi de parler de du projet de loi sécurité globale et des questions qui sont posées notamment autour de l'article 24 sur les questions de la liberté de la presse et plus généralement des libertés publiques. Et nous avions choisi d'inviter la sénatrice Sophie Taillé-Polian. Bonjour.
Bonjour.
Sénatrice du Val-de-Marne et coordinatrice nationale du mouvement Génération. Donc c'est vrai, madame la sénatrice, que nous voulions vous entendre sur ce projet de loi, mais parfois l'actualité vient un petit peu prendre le contrôle de l'émission, donc c'est pas toujours le cas, une fois n'est pas coutume, et j'ai envie de vous entendre aussi sur les événements de la place République et sur une intervention policière qui fait couler beaucoup d'encre. Et vous-même, d'ailleurs, vous avez demandé la démission du ministre de l'Intérieur, et en tout cas, vous joignez à toutes les voix qui aujourd'hui dénoncent, je cite, hein, en résumé, une évacuation scandaleuse.
Oui, tout à fait. C'est une évacuation qui a été faite dans des conditions absolument déplorables. J'entends les autorités qui parlent de gestes déplacés. Alors, gestes déplacés, on est vraiment bien au-delà de ça, hein, puisqu'il y a un peu de bastonnade. Enfin, voilà. Enfin, c'est tout à fait indigne de notre pays. Mais c'est le fait aussi d'un discours politique depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Sur le fait que les policiers doivent être protégés avant tout et ils doivent pouvoir finalement ça laisse la possibilité qu'ils fassent un peu ce qu'ils veulent, et c'est ce que nous dénoncions avec la proposition de loi et notamment son article 24. On voit bien que dans notre pays il y a quand même un problème sur la doctrine du maintien de l'ordre, sur la capacité des policiers d'intervenir, les moyens d'intervention. Il y a d'ailleurs eu un fort mouvement social avant l'été à ce sujet, sur la question des violences policières. On doit arrêter de taire ce problème. C'est un problème qui existe. Et pour cela, une nouvelle politique publique doit être mise en place, dans le respect avec le travail des policiers, avec les policiers qui, dans la plus grande majorité, sont des gens formidables et qui font bien leur travail. Mais on voit bien là que on organise les choses et on met en place des contrôles de manifestations qui débordent très largement des principes républicains.
Alors, on reviendra dans quelques instants, puisqu'on a le temps dans notre émission d'aborder les sujets sur cet article 24 et la proposition de loi sécurité globale, mais peut-être qu'on peut s'arrêter un instant sur ce sujet des interventions policières. Vous demandez la démission de Gérald Darmanin, en tout cas vous le mettez en cause, mais c'est un problème qui est beaucoup plus ancien. On se rappelle, il y a 2 ans, au moment du mouvement des Gilets jaunes, il y avait eu aussi des modes d'intervention qui posaient question. Beaucoup de manifestants qui ont été blessés. Bon, il y avait aussi des casseurs, il y avait aussi des violences de part et d'autre. Mais c'est vrai que, et même en remontant un peu plus loin, à l'époque de la loi travail, sous le gouvernement de Manuel Valls, il y avait aussi eu des interventions et même aussi des violences d'ailleurs envers les policiers. Donc c'est un sujet qui est ancien.
Oui, bien sûr, c'est un sujet qui est ancien et finalement on est face à une escalade. Et je pense qu'il faudrait arrêter l'escalade. Et l'escalade, elle produit une défiance de plus en plus importante entre la population et la police. Et alors que dans notre pays, notre République ne peut fonctionner que s'il y a un lien de confiance entre la police et la population. Donc qu'est-ce qu'on observe ? Avant, la doctrine du maintien de l'ordre de l'État, c'était celle de protéger, de garantir la liberté de manifester, et que le manifestant était vu comme un citoyen qui exprimait son opinion. Et finalement, il y avait même cette doctrine du maintien de l'ordre, elle protégeait le manifestant d'un certain nombre de débordements qui pouvaient avoir lieu, parce que les débordements autour de manifestations dans les années 90, on en a vu. Mais les policiers, on les sentait quand même en protection des manifestants. C'est vrai qu'il y avait un peu certaines manifestations où il y avait des casseurs, etc. Mais les choses n'étaient pas dans l'escalade, parce que la doctrine, c'était il faut protéger les manifestants des casseurs, et parce que le manifestant est avant tout vu comme un citoyen. Et la police, elle protège les citoyens. Et puis, depuis un certain nombre d'années, avec une radicalisation des mouvements sociaux et aussi liée à une radicalisation des politiques qui sont mises en place, on a vu la violence monter. Et finalement, face à cela, on a vu la doctrine du maintien de l'ordre évoluer, et on finit par penser que ce qui est donné comme message à la police, c'est pas que les manifestants doivent être vus comme des citoyens, mais que les manifestants doivent être vus comme des casseurs potentiels. Et donc là, on assiste à toutes les dérives qu'on observe hein, depuis plusieurs années, qui sont montées à un niveau inégalé avec les gilets jaunes, et qui depuis restent à un niveau de violence extrêmement important. Et on aboutit à la situation actuelle, où après, ça monte, et puis c'est les journalistes qui sont pris pour cible, et dans une ambiance qui n'est plus celle d'une république où on peut manifester, où on peut, être citoyen manifestant en toute sécurité. Après, il y a autre chose que je voulais dire, c'est que ce qu'on a vu là, de ce que faisaient les forces de l'ordre aux migrants, là, on l'a vu, mais ça se passe quand même depuis plusieurs années, cette violence spécifique envers les migrants, le fait qu'on déchire les couvertures, qu'on brûle les tentes, c'est quand même quelque chose qui est en place depuis aussi plusieurs années et qui est absolument inadmissible. Alors là, on le voit parce que c'était Place de la République, parce que c'était dans un moment particulier, il y a cette double chose qu'on observe vis-à-vis des migrants, alors que il devrait avoir respect de la dignité de la vie humaine et de ce qu'ils ont traversé. Et il y a le problème vis-à-vis des manifestants en général.
Alors, le bâtonnier de Paris, hein, maître Olivier Cousy, va dans votre sens, puisque lui, il dénonce aussi des violences envers les avocats, notamment effectivement Place de la République. Et il précise dans un tweet qu'il a fait il y a quelques heures, le devoir des forces de l'ordre, c'est d'encadrer sans violence des manifestations pacifiques de citoyens. Donc, effectivement, on voit bien que c'est pas simplement, des voix, c'est pas simplement les journalistes, c'est pas du corporatisme, c'est pas simplement des élus, mais c'est que une grande diversité d'acteurs s'insurgent et s'inquiètent de certaines dérives.
Bah oui, il y a une dérive dans notre pays, là, on le voit. Une dérive sécuritaire, une dérive liberticide qui a commencé très tôt dans le quinquennat mais qui ne s'arrête pas, qui se poursuit. Je crois d'ailleurs que ça met mal à l'aise beaucoup de gens au sein de la majorité, y compris ça met mal à l'aise aussi tous ces débats sur la PPL sécurité globale, y compris au sein du gouvernement. Donc je pense qu'il faudrait revenir à la raison. Et c'est pour ça que nous appelons et que j'appelle à la démission du ministre de l'Intérieur, parce que avec ses propos, les propos qu'il a tenus ces dernières semaines, il n'est pas du tout dans l'apaisement et dans la recherche d'un nouvel équilibre entre les policiers et la population, d'un nouveau lien de confiance. Il est au contraire dans une escalade verbale qui ne peut pas résoudre la situation.
Alors, bon, c'est le sentiment que vous pouvez avoir, que le ministre de l'Intérieur ne régule pas et au contraire peut-être ajoute de l'huile sur le feu. Comment vous expliquez finalement cette continuité dans une forme de refus de nommer les dérives de la police, parce que le ministre, mais comme son prédécesseur et puis comme son prédécesseur avant lui, dit qu'il refuse d'utiliser le mot violence policière. C'est clair. C'est pas la terminologie qu'emploie aucun ministre ni aucun gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs. Est-ce que c'est effectivement une volonté de ne pas stigmatiser un corps policier qui est aussi soumis à des pressions fortes hein, depuis plusieurs années, parce qu'il y a eu les attentats, il y a eu les manifestations des gilets jaunes, donc on sait que les policiers sont aussi usés, fatigués, c'est aussi un corps qui est parfois agressé, il y a un nombre important de faits envers les policiers, beaucoup de suicides aussi. Comment on fait finalement pour dénoncer certaines dérives mais sans stigmatiser une police nationale dont on a besoin et auquel d'ailleurs les Français sont attachés?
Écoutez, la question c'est qu'est-ce que c'est un ministre de l'Intérieur? Est-ce qu'un ministre de l'Intérieur c'est quelqu'un qui couvre les policiers quoi qu'il arrive? Ou alors c'est quelqu'un qui dit mon devoir c'est de protéger la police? Je ne crois pas. Le devoir d'un ministre de l'Intérieur il est double. Premièrement c'est de garantir ce lien de confiance entre population et police. Mais c'est aussi de garantir les conditions de travail des policiers. Or, qu'est-ce qu'on voit depuis plusieurs années. Effectivement, c'est les conditions de travail de la police qui se dégradent, avec notamment un manque de véhicules, avec une situation, ne serait-ce que le bâtiment dans les commissariats qui est vétuste. Donc ce sont des conditions de travail qui sont tout à fait indignes en fait de la police que nous devrions avoir. C'est aussi des missions supplémentaires avec la lutte contre le terrorisme, etc., etc. Donc, pour moi, le rôle d'un ministre de l'Intérieur, c'est effectivement de garantir des bonnes conditions de travail aux policiers, les effectifs, le matériel en état d'usage. C'est tout cela. Et ça, ce n'est pas fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, comme ça, c'est pas fait. Eh ben, on se déporte sur l'autre chose, c'est-à-dire de dire, on va protéger la police d'une population qui lui serait hostile. Mais la majorité de la population dans notre pays n'est pas du tout hostile à la police. Elle attend de la police beaucoup de choses et elle lui fait confiance. Mais la réalité, c'est que, il y a un petit peu un déport du ministère qui ne peut pas garantir les conditions de travail parce qu'il n'arrive pas à obtenir les moyens auprès de Bercy. Et donc, il est prêt un peu à tout couvrir. Aujourd'hui, dans notre pays, il faut le dire, il y a des violences policières. Il y a des violences policières, c'est pas le fait de tous les policiers, c'est pas le cas dans toutes les manifestations, évidemment, mais il y en a, et il faut faire en sorte que cela s'arrête, et il y a notamment un certain nombre de choses à faire, et notamment, je porte une proposition sur l'indépendance de l'IGPN, qui doit être garantie, pour faire en sorte que les choses s'apaisent. Moi, je crois qu'il faut qu'on trouve maintenant un apaisement avec la mise en place de davantage de police de proximité dans les quartiers pour retrouver le lien entre population et police, davantage de moyens aussi à la police pour qu'elle puisse exercer ses missions dans de bonnes conditions. Je pense notamment aux véhicules, parce que alors ça c'est vraiment... De toute façon, vous appelez votre commissariat, vous dites « bah oui, mais on peut pas venir, on n'a pas de véhicule hein ». Donc il est quand même plus là le problème.
Alors, justement, puisque... On a aussi l'intention d'évoquer la proposition de loi sécurité globale. Est-ce que justement pour vous cette nouvelle proposition de loi, il y en a eu beaucoup hein, sur les questions de sécurité, elle va finalement dans le sens de ce que vous appelez une dérive, c'est-à-dire qu'on essaye de faire un peu de la surenchère sécuritaire, et y compris un des articles qui a fait couler beaucoup d'encre, y compris jusqu'à la Commission européenne qui s'en est émue, c'est cet article 24 qui restreindrait les droits de filmer des policiers en intervention, y compris pour des journalistes. Et là, c'est vrai que ça a interpellé beaucoup de gens.
C'est normal que ça ait interpellé, parce que aujourd'hui, s'il y a des... Si on peut dire et on peut affirmer, quelle que soit la volonté du gouvernement de le taire, on peut affirmer avec clarté sur la base de faits qu'il y a des violences policières, il y en a. Ce n'est pas encore une fois le fait de tous, ce n'est pas tous les jours, mais il y en a. C'est bien parce qu'il y a des vidéos et qui viennent à l'appui. Et quand les avocats des victimes des violences policières l'expliquent, ils l'expliquent fort bien, ils ont besoin de ces vidéos pour pouvoir démontrer les choses. S'il n'y a plus ces vidéos, il n'y a plus de capacité pour les victimes de détailler leurs propos. Donc, évidemment, là, on essaye de casser le thermomètre alors qu'on a la fièvre. Donc, s'il n'y a plus d'images, il n'y a plus de violence policière. Comme le gouvernement n'arrive pas à démontrer qu'il n'y a pas de violence policière, il veut arrêter les images. Et je crois que Gérald Darmanin s'est saisi de cette proposition de loi pour, d'ailleurs en la dénaturant en partie, puisqu'il va bien au-delà de ce que souhaitaient les auteurs de la proposition de loi initialement, il s'en est saisi, il l'a porté lui-même pour, en réponse, en écho aux mobilisations citoyennes de juin contre les violences policières, exprimer aux policiers son soutien. Et encore une fois, au lieu d'être dans une position d'équilibre, d'apaisement pour rechercher un lien de confiance entre police et population, eh bien, il se positionne, il le dit comme ça, il se positionne, entre guillemets, du côté des policiers, il devrait être du côté de la République.
Alors, il y a aussi, faut l'entendre, les arguments du gouvernement, de Gérald Darmanin ou Marlène Schiappa, qui disent qu'en réalité, l'objectif du gouvernement, c'est de protéger les policiers contre d'éventuelles représailles, qu'on puisse pas les reconnaître parce que il s'appuie sur un certain nombre de chiffres qui montrent que effectivement il y a une recrudescence des agressions envers les policiers, et ils craignent effectivement que cette capacité à filmer effectivement tout le monde tout le temps finalement, et aussi la police, ne puisse venir aggraver et mettre les policiers parfois en difficulté, et y compris jusque dans leur vie privée, si on les reconnaît après des interventions.
Écoutez, je crois qu'effectivement, il faut donner des moyens à la protection de l'ensemble des fonctionnaires qui agissent sur notre territoire au nom de l'intérêt public, au nom de l'intérêt général. Il faut protéger les policiers, il faut protéger tous les fonctionnaires. Et je pense bien sûr aux enseignants, mais je pense bien sûr à d'autres corps qui sont parfois victimes aussi de...
Le corps médical.
On pense au corps médical, on pense aux pompiers, mais on pense aussi aux inspecteurs du travail. Parfois, ils ne sont pas très bien reçus. Et parce que, effectivement, dans notre société aujourd'hui, il y a une telle tension et une telle montée des antagonismes que les agents de l'État, ils sont aussi soumis à des grosses difficultés. Donc, bien entendu, il faut protéger l'ensemble des fonctionnaires qui agissent au nom de l'intérêt général et qui agissent pour nous tous et toutes. Ça, c'est une évidence. Après, il ne faut pas non plus les faire rentrer dans une posture où ils seront attaqués tout autant de pouvoir profiter de situations d'abus de pouvoir. Hein, c'est toujours l'équilibre entre la protection des fonctionnaires et éviter les abus de pouvoir. Parce que quand on est fonctionnaire, et quelle que soit la fonction, on a une sorte de pouvoir par rapport aux citoyens. Donc c'est cet équilibre-là. Moi, quand j'entends, dans le débat parlementaire, j'ai entendu les propos du ministre de l'Intérieur dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, dire demain on pourra filmer, on pourra diffuser, mais on ne pourra plus menacer les fonctionnaires de police, et là ici tout un tas de choses abominables, comme si on pouvait aujourd'hui le faire et que c'était pas passible de peine de poursuite. Et aujourd'hui, c'est passible de poursuite. On ne peut pas, on n'a pas le droit dans notre pays, pas plus les fonctionnaires de police que d'autres, d'appeler au meurtre ou à je ne sais quoi sur des fonctionnaires ou même de personnes. Par contre, donc c'est déjà le cas. Par contre, il faut renforcer les moyens mis à disposition pour protéger. On pense bien sûr à la cellule Pharos sur les réseaux sociaux, qui souffre d'un sous-dimensionnement, alors même que beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux, et que là, il faut renforcer très 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 fortement les moyens pour détecter et pour prévenir, pour agir en prévention. C'est ainsi, je crois, que les fonctionnaires tous se sentiront protégés. Parce que dès qu'il y aura la moindre menace, le moindre message, eh bien il y aura tout de suite une enquête et puis un rappel à l'ordre des auteurs de ce type de menace. En plus, on nous ressort régulièrement ce qui c'est l'horrible drame de Magnanville, mais c'est pas du tout la même chose. Il ne s'agit pas de réseaux sociaux, il s'agit de gens qui ont été pistés individuellement, mais localement. Donc on mélange tout pour faire monter les et on est dans l'escalade. Je crois qu'il faut rabaisser un peu le débat avec des arguments précis, factuels, voir ce qu'on peut faire pour protéger les policiers, notamment en termes de surveillance des réseaux sociaux et de rapidité des poursuites après ou de l'action dès qu'on détecte le moindre problème. Ce serait à mon sens une vraie réponse, mais qui coûterait plus cher au budget de l'État. C'est vrai.
Bien, écoutez, Sophie Taillé-Polian, madame la sénatrice du Val-de-Marne, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de la première partie de l'émission, et si on en parlait, sur Radio Orient. Et dans la seconde partie de l'émission, nous allons recevoir Arnaud Benedetti, le rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, pour continuer à parler des libertés publiques, des libertés de la presse et de la situation en ce moment en France. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?» consacré aux libertés publiques, aux libertés de la presse. Et bien où va le gouvernement? C'est la question un petit peu qu'on s'est posée dans la première partie de l'émission avec la sénatrice du Val-de-Marne, Sophie Taillé-Polian. Et donc je reçois maintenant, dans le cadre de notre partenariat avec la revue politique et parlementaire, Arnaud Medinetti.
Bonjour Alexis.
Rédacteur en chef de la revue. Et Arnaud, peut-être comme je l'ai fait avec la sénatrice du Val-de-Marne, vous faire réagir à cette séquence de l'évacuation par la police d'un camp de migrants qui s'était installé sur la place de la République et qui a fait, ma foi, réagir énormément de monde. Alors évidemment des réactions politiques, notamment à gauche, hein, tout le monde s'élève pour parler d'une évacuation scandaleuse, je mets ça entre guillemets, mais aussi les journalistes dont certains ont été molestés, et aussi même le modéré, le bâtonnat de Paris, Olivier Cousy, qui eh bien a fait un tweet pour regretter les violences sur les avocats, et il dit « Le devoir des forces de l'ordre, c'est d'encadrer sans violence des manifestations pacifiques de citoyens ». Alors, comment analyser cette séquence ?
Ah ben, ce sont des images qui arrivent, j'allais dire, au plus mauvais moment pour l'exécutif, dans un contexte, et vous l'avez rappelé, de débat sur le projet de loi sur la sécurité globale, avec notamment le fameux article 24 qui est largement contesté par toute une partie de la profession et des journalistes. Finalement, il y a eu une sorte de bataille de communication qui s'est nouée autour de la place de la République avec d'un côté des associations qui ont saisi vraisemblablement aussi le contexte de discussion de cette loi pour mettre au grand jour la question des migrants qui aujourd'hui ne disposent pas, disons, de possibilité de se loger, et un exécutif qui est dans une séquence de communication où il veut affirmer toujours un peu plus son autorité sur les sujets régaliens. Le résultat, c'est que le sentiment qui se dégage de ces événements, c'est que l'exécutif a perdu, en tout cas de ce point de vue-là, la bataille de la communication, parce que les images qui ont circulé en boucle depuis maintenant mardi sont des images qui montrent en effet un usage qui apparaît disproportionné des forces de l'ordre pour évacuer la place de la République. Donc on surinfecte d'une certaine manière la plaie en donnant le sentiment que il y a aujourd'hui un climat autoritaire qui s'installe dans le pays. Donc la bataille de la communication a été d'autant plus perdue qu'on a vu d'ailleurs Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, très vite tweeter et lui-même considérer que les images auxquelles nous étions exposés
pouvaient être choquantes. Et donc certains s'élèvent, je dirais une fois n'est pas coutume parce que c'est arrivé à tous les ministres de l'Intérieur, mais mettre en cause effectivement les déclarations, le comportement, la pratique du ministre de l'Intérieur jusqu'à demander sa démission. C'était le cas d'ailleurs de Sophie Taillé-Polian que nous interrogions dans la première partie de l'émission.
Alors la réalité c'est que Gérald Darmanin, il a été embauché, si je puis dire, en tant que ministre de l'Intérieur, pour rétablir le lien de confiance entre le ministère, le ministre, premier flic de France, et le corps social principal de ce ministère, qui est la police, suite aux dernières semaines de M. Castaner à son poste, qui avait donné le sentiment, en tout cas c'est ce que disaient un certain nombre de syndicats de policiers, de lâcher les policiers. Donc la feuille de route, qui est la feuille de route de M. Darmanin, c'était une feuille de route de rétablir une forme de pacte de confiance entre la police et son ministre. Et de ce point de vue, force est de constater qu'il a suivi au millimètre près cette feuille de route. Aujourd'hui, il se retrouve dans une situation qui est complexe parce que il doit en effet, en tout cas, compter avec une opinion publique quand même, est plutôt majoritairement aujourd'hui favorable à des messages de fermeté, à des messages d'autorité, mais aussi avec une partie aussi de cette opinion publique qui s'inquiète d'une sorte de climat autoritaire qui s'installerait dans la société française. Alors en plus, il est quand même le projet de loi sur la sécurité globale avec ce fameux article 24 intervient dans un contexte de limitation quand même d'un certain nombre de libertés fondamentales comme la liberté de circuler, mais également là d'ailleurs la liberté de commercer aussi, le commerce est une liberté aussi. Mmh. Et donc on a quand même le sentiment que le timing qui est choisi par l'exécutif n'est certainement pas le meilleur timing, et en l'occurrence ce à quoi on a assisté ce mardi place de la République vient accréditer en image disons cette interprétation ou cette lecture, alors à tort ou à raison, d'un pouvoir qui aujourd'hui fait preuve d'une forme d'autoritarisme voire de répression par rapport à un certain nombre de mouvements et même par rapport à un certain nombre de libertés fondamentales comme la liberté d'informer, comme le droit de l'information.
Au fond, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a un peu un télescopage de différents calendriers ou de différentes crises qui, finalement, viennent accréditer celles et ceux, et c'était le cas effectivement de la sénatrice Sophie Taillé-Polian, mais beaucoup d'autres voix, hein, même le bâtonnier de Paris, des journalistes aussi, qui s'interrogent et même parfois dénoncent une dérive sécuritaire, policière et des atteintes de plus en plus nombreuses finalement aux libertés publiques, la liberté de manifester en faisant partie des libertés publiques fondamentales et aussi la liberté d'expression et aussi la liberté d'informer. Voilà, et on a le sentiment effectivement qu'en l'espace de quelques jours, tout est venu se télescoper au plan finalement de communication du gouvernement qui espérait répondre à l'attente de l'opinion en termes de fermeté, mais qui finalement semble rencontrer des difficultés à imposer son agenda.
C'est très clair que l'exécutif, le président de la République, son premier ministre, le ministre de l'Intérieur, s'appuie aujourd'hui sur une tendance profonde de l'opinion publique qui est en demande d'autorité face à un certain nombre de sujets de sécurité qui sont venus, disons, là aussi télescoper l'agenda politico-médiatique. Donc c'est la ressource principale aujourd'hui de l'exécutif. Mais là, si vous voulez, il se heurte à la montée en puissance d'un certain nombre de catégories et qui ne relèvent pas uniquement de l'ultra-gauche ou de l'extrême-gauche comme le laisse entendre pour partie la majorité. Il s'agit de journalistes, il s'agit également d'avocats, vous l'avez rappelé, qui considèrent que certes, en effet, l'exercice de l'autorité est indispensable et nécessaire, mais qui doit s'effectuer, disons, dans le sillon des règles de l'état de droit. Et là encore une fois, il y a une sorte d'impression qui se dégage que l'exécutif ne tient pas compte de ces messages-là. Alors on voit qu'on a eu dimanche dernier une déclaration ou une tribune de l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Castaner, pour tout simplement rappeler tout l'attachement de la majorité à la liberté d'informer, au droit à l'information, à la nécessité d'avoir des médias qui puissent faire leur travail dans des conditions optimales. On voit qu'en tout cas, on essaye de prendre en compte aujourd'hui cette demande. On voit que l'article 24 tant décrié a fait l'objet d'un amendement, mais on voit aussi que malgré cet amendement, malgré ces déclarations, une défiance est en train de s'installer entre d'un côté les médias, qui d'ailleurs, toute obédience confondue, j'allais dire presque sur l'échiquier politique, ont émis, soit condamné, soit émis des réserves quant au projet de loi sur la sécurité globale, en tout cas à cet article, vis-à-vis de cet article 24, et l'exécutif. Donc, et on voit aussi qu'un certain nombre d'avocats, de défenseurs, de professionnels du droit s'inquiètent, s'émeuvent d'une pratique politique qui semblerait en tout cas s'affranchir du respect de l'état de droit. Donc on est quand même dans une situation extrêmement conflictuelle, et on est dans une situation qui est d'autant plus conflictuelle qu'on a une société française qui est elle-même profondément aujourd'hui fracturée.
Alors suite au vote de cet article 24, il y a des choses étonnantes et rares, et par exemple le fait que la Commission européenne se soit exprimée pour rappeler le principe de la liberté de la presse, et indiquer suivre la situation de près et même aller jusqu'à vérifier que cette loi, que cette législation soit en conformité avec le droit de l'Union européenne, ce qui, il faut le dire, est extrêmement rare de la part de la Commission européenne, parce que c'est pas son rôle de s'ingérer dans les législations nationales, et quand elle le fait, c'est souvent quand il y a des manquements graves, et elle le fait aussi régulièrement sur la Pologne ou sur la Hongrie, mais plus rarement sur la France.
Oui, alors c'est très gênant pour le logiciel politique de l'exécutif et de la majorité, qui est un logiciel politique qui s'est bâti sur une forme d'idée de progressisme européen. Alors, j'allais dire à revers ou à rebours, à la limite, dans un pays qui aujourd'hui est parfois très sceptique vis-à-vis des institutions européennes, cette prise de position, si on raisonne d'un point de vue purement instrumental et point de vue est presque cynique, en l'occurrence, elle pourrait aider le gouvernement et le ministre de l'Intérieur dans sa promotion de ce nouveau dispositif législatif. Et en fait, qu'est-ce que ça laisse apparaître? Ça laisse apparaître les contradictions fondamentales de la Macronie et du macronisme qui a encore une fois plutôt, disons, une doxa politique qui a été une doxa politique qui est qualifiée de progressiste, de libérale, et une pratique du pouvoir, ou en tout cas une pratique de la politique qui est parfois, en tout cas, en distance par rapport aux principes qu'ils affichent, comme si tout se passait comme si le gouvernement et l'exécutif couraient en permanence derrière une opinion, ou en tout cas derrière ce qu'ils imaginent que l'opinion pense et croit, pour tout simplement ne pas se sentir d'une certaine façon en contradiction avec l'opinion publique dominante. Mais en courant après l'opinion de cette façon-là, ils sont en train progressivement de renoncer à leurs principes en vue vraisemblablement d'échéances électorales futures. Ce qui les met quand même dans une situation de contradiction, j'allais dire quasi existentielle, qui est fortement problématique, parce que en plus, rien ne démontre que ce positionnement qui apparaît être le leur aujourd'hui soit sur le plan ensuite politique et voire électoral très efficient.
Alors c'est une phase de turbulence pour la majorité, puisque le groupe Modem souhaite la suppression de cet article 24, que d'autres composantes de la majorité ou des compagnons de route comme l'UDI demandent sa réécriture. Et puis, au sein du mouvement La République En Marche, on a des députés qui parfois tiennent des propos extrêmement sévères et annoncent qu'ils ne voteront pas la proposition de loi lors du vote solennel prévu la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Et je cite Nathalie Sarle, députée de la Loire, « Nous allons tranquillement vers un État autoritaire, vers une suppression des libertés individuelles. » C'est une députée de la majorité qui dit ça.
Oui, alors on voit bien qu'aujourd'hui, à un an et demi de la fin du mandat, les tensions s'installent dans une majorité parlementaire où, qui plus est, faut-il le rappeler, le groupe parlementaire de La République En Marche ne dispose plus de la majorité absolue. Donc il est, disons, contraint par le jeu du rapport de force arithmétique sur le plan parlementaire de devoir négocier avec en tout cas, les groupes qui lui sont proches, notamment le Modem, qui, de ce point de vue-là, a pris aujourd'hui un poids politique beaucoup plus fort au sein du Parlement. Donc il y a déjà ce premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que, finalement, aujourd'hui, autant il y avait, j'allais dire, une espèce de convergence qui existait sur les questions économiques au sein de cette majorité, et ça depuis le début. En l'occurrence, autant cette convergence n'existe pas ou n'existe plus du tout aujourd'hui lorsqu'il s'agit de traiter soit d'enjeux sociétaux ou soit d'enjeux régaliens. Et on voit que finalement tout l'édifice politique qui est l'édifice politique qu'a construit Emmanuel Macron dans sa conquête du pouvoir et ensuite dans son exercice du pouvoir est comme rattrapé par le réel finalement j'allais dire, des positionnements politiques des uns et des autres au sein de cette majorité. Donc tout l'enjeu pour lui aujourd'hui est de préserver, alors que quand même on se rapproche de la fin du mandat, un équilibre politique qui lui permette de faire tenir sa majorité. Finalement, il est confronté à un choix. Est-ce que c'est l'équilibre de sa majorité qui importe aujourd'hui, ou est-ce que c'est plutôt finalement ce qu'il pense être les tendances profondes de l'opinion publique? Va-t-il toujours suivre un peu plus l'opinion publique, enfin en tout cas ce qu'il pense être la tendance profonde de l'opinion publique, au risque de fragiliser sa majorité? Ou va-t-il finalement essayer de composer à l'intérieur de sa majorité pour essayer de trouver un principe d'équilibre qui lui permette en effet à la fois, bien évidemment, de pouvoir continuer à, disons, promouvoir cette position de rétablissement de l'autorité qu'il entend incarner, mais comment peut-il le faire sans, d'une certaine manière, avoir l'appui de l'ensemble des composantes de la majorité? Ça, c'est une vraie question parlementaire qui se pose pour lui dans les jours et dans les semaines qui viennent.
Est-ce que la situation politique aussi ne résulte pas du choix de Monsieur Darmanin comme ministre de l'Intérieur, qui a été, ce que vous disiez tout à l'heure, recruté pour reprendre un petit peu, remettre un peu de l'ordre dans la maison ministère de l'Intérieur, et on se rappelle de la fin de l'exercice du ministre Castaner, qui était marqué par une certaine défiance entre une partie de la police et son ministre, mais que finalement, à vouloir entre guillemets trop en faire. Monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur, fait un petit peu de zèle pour se faire apprécier de son ministère et des policiers, et que finalement, dans ce contexte un petit peu inflammable et compliqué, ça aggrave des fractures et parfois ça met le gouvernement en difficulté.
Alors encore une fois, moi oui, vous l'avez rappelé, mais Gérald Darmanin a été, choisi à ce poste pour incarner le premier flic de France, incarner l'autorité sur les questions de sécurité, incarner l'autorité sur les questions migratoires.
Et peut-être pas au point de se mettre à dos les journalistes, les avocats.
Le problème aujourd'hui, c'est que on ne peut pas totalement exclure non plus que le ministre de l'Intérieur joue une partition, qui est une partition un tantinet personnelle, l'orchestration gouvernementale, parce qu'il sait très bien que le poste de ministre de l'Intérieur, c'est un poste qui peut, pour l'avenir, être un poste qui va renforcer un capital politique. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que on voit qu'aujourd'hui, et ce qui n'était pas le cas il y a encore 3 semaines, qu'il y a, un certain nombre de voix à l'intérieur de la société civile, parmi les journalistes, encore une fois parmi les professionnels du droit, parmi les avocats, parmi le tissu associatif, qui se posent des questions et mettent en question et interrogent la politique qui est menée par le ministre de l'Intérieur. Il faut trouver un savant équilibre entre la nécessité, bien évidemment, de restaurer, de rétablir l'autorité, ce qui est une demande très forte, encore une fois, de l'opinion publique, mais aussi de le faire dans le cadre qui est celui du respect de l'état de droit. Et on voit que, par exemple, la question, si vous voulez, de l'article 24, elle pose un problème de fond qui est celui de la transparence de l'action publique. L'action publique, pour qu'elle soit légitime, pour qu'elle soit respectée, il faut qu'elle soit transparente. À partir du moment, alors ça a été bien évidemment amodié avec l'amendement à l'article 24.
Sur la liberté de l'information.
La liberté. À partir du moment où vous entendez finalement contrôler, d'une certaine manière, le travail des journalistes, vous induisez tout de suite un soupçon quant à la transparence de l'action publique dans un domaine qui est particulièrement sensible, qui est celui de la force publique. Et par ailleurs, vous risquez, et c'est à mon avis un deuxième souci qui a été insuffisamment pris en compte par l'exécutif, alors que quand même la police bénéficie encore, étude d'opinion après étude d'opinion, même si c'est un peu infléchi, d'un soutien de la population, vous risquez d'induire l'idée que si vous ne voulez pas que qu'il y ait de la transparence pour couvrir un certain nombre d'événements et un certain nombre de manifestations, c'est que ça se fait pour cacher un certain nombre de choses. Donc vous risquez d'induire une relation de méfiance entre la société, les forces de police et bien évidemment également l'exécutif.
Eh bien, merci Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. C'était la fin de notre émission « Et si on en parlait ?» consacrée aux libertés publiques, à la liberté de la presse et à toutes les questions qui en ce moment traversent le pays, suite effectivement notamment au vote de cette proposition de loi Sécurité globale. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci, à bientôt.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.